Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour, je suis Pierrick Fay, le présentateur du podcast des Échos. Cette semaine, la story se met en pause lecture, 4 épisodes pour vous raconter des tranches de vie et des destins parfois extraordinaires. Il y a un gars là-dehors qui est short à mort et il va paniquer. Il va devoir se racheter. Je vous prédis une journée dantesque. C'est un champ de bataille un peu particulier, une salle des marchés chauffée à blanc, au cœur de la grande machine des marchés financiers. Dans Wall Street en feu de Thomas Veillet, on ne tire pas seulement à balles réelles, mais aussi à coups de milliards, dans un polar financier haletant, un trader englué dans une affaire de délit d'initié à grande échelle.
Mais ces gens vont perdre leur job, ils vont se retrouver à la rue. Mon père a travaillé là pendant 23 ans et je leur ai donné ma parole.
Il s'agit de pognon, petit. Le reste, c'est du bavardage.
Bonjour Thomas Veillet.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur multitâche, fondateur du site investir.ch, très présent aussi sur les réseaux sociaux, mais aussi ancien chroniqueur boursier et ancien trader chez Pictet, Dina Capital et surtout chez UBS à plusieurs reprises entre 1997 et 2008, on va y revenir. Mais si je vous reçois dans la story, c'est aussi parce que vous avez publié chez Talent Édition un polar financier Wall Street en feu, passé du Bloomberg à l'écriture d'un polar, c'est un drôle de parcours.
Ouais, c'est un drôle de parcours, mais je crois qu'en fait, simplement, moi j'étais... D'abord, je suis toujours chroniqueur boursier, parce que j'écris des chroniques boursières tous les matins depuis 2006, donc j'en suis à 5000 chroniques boursières, donc pour moi, écrire, ça fait partie de ma vie. J'écris tous les matins 4 pages, en Arial 12, donc tous les matins, j'ai l'habitude d'écrire, facilement, mais c'est sur un seul sujet, la finance, tout le temps, tout le temps. Et en fait, le challenge dans tout ça, parce que je suis un avide lecteur de polar américain depuis des années, que j'ai vécu à Wall Street il y a pas mal d'années en arrière, et j'ai appris l'anglais en lisant des polars américains. Donc je suis resté très attaché à ce genre de choses. Je ne lis qu'en anglais. Et un jour, je me suis dit, est-ce que je serais capable finalement de transposer ma capacité d'écrire 4 pages par jour en roman de 350 pages. Et j'ai plusieurs fois hésité avant de me lancer, et finalement, je me suis lancé grâce au Covid, on va dire ça comme beaucoup d'autres qui ont essayé, ou qui l'ont fait, et je me suis lancé là-dedans et en disant, est-ce que ça va marcher ? Alors la seule discipline que je me suis donnée, c'est d'écrire 5 pages par jour, tous les jours, et de jamais faire de pause. Et résultat, 2 mois et demi après, j'avais écrit un roman, voilà.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter les coulisses des marchés à travers ce polar ?
En fait, le personnage de Wall Street en feu, Tom Kelsey, n'a aucun point commun avec moi, si ce n'est qu'il est trader à Wall Street, ce que j'ai été. En dehors de ça, ça s'arrête là. Je n'ai tué personne, je n'ai pas fait la guerre, je ne suis pas parti des commandos.
J'avais un look d'ancien soldat, on ne peut pas le voir, le tatouage...
Mais ça n'a rien à voir. Non, j'étais réformé de l'armée, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Mais en fait, simplement, je voulais exprimer ce que j'avais vu et entendu et vécu dans les marchés, où on sent quand même qu'il y a une notion qui ressort beaucoup, qui est la notion du « on est tous égaux dans la finance, sauf qu'il y en a qui sont plus égaux que les autres, qui sont mieux informés ». Et en fait, ça revenait à ça, et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer, que je voulais exprimer dans un bouquin beaucoup plus technique, en expliquant ce qui se passe officiellement, mais je me suis dit que j'allais me faire beaucoup d'ennemis. Donc c'était plus simple de romancer la chose. Bon, voilà. Il y a des choses qui sont peu claires, les gens sont bien informés, c'est ce que je voulais raconter là-dedans.
Voilà, être initié, effectivement, l'avantage de l'initié en bourse, qui permet souvent de gagner beaucoup d'argent.
Alors il y a les initiés, et puis il y a ceux qui provoquent les initiations, et l'idée de ce bouquin, c'était ça justement, d'être face à des gens qui provoquent les événements.
Wall Street en feu, c'est l'histoire d'une escroquerie, d'une vaste entreprise criminelle de délit d'initié. On va laisser au lecteur le plaisir de découvrir ce qui se passe. passe, votre éditeur présente le livre comme la rencontre entre James Bond et le loup de Wall Street. Pourquoi ?
Alors, c'est à lui qu'il faudrait demander ça, parce que non, effectivement, bah, y a un côté James Bond, parce qu'il y a beaucoup d'action. La remarque la plus enthousiasmante que j'ai pu avoir ces derniers mois, c'était le fait que les gens me disent « à cause de toi, j'ai pas dormi cette nuit, parce que j'ai dû finir le bouquin ». Ça, je suis très touché. Donc, je voulais qu'il y ait du rythme dedans, que ce soit vraiment comme un film d'action. Et puis, bah, parce que ça se passe à Wall Street, et c'est pas forcément dans ce milieu-là qu'on imagine qu'il y ait le plus d'action vu de l'extérieur. De l'intérieur, c'est autre chose, mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou l'occasion de vivre dans ce milieu-là, bah, on se rend compte qu'en fait, il y a quand même pas mal d'action. Mais moi, je voulais faire vivre ça, en fait, différemment.
Colonel, cette fois, on y va pour gagner. Cette fois, ça dépend de toi.
Votre héros, c'est un ancien soldat. Il s'appelle donc Tom Kelsey. Il a combattu, survécu en Afghanistan. Il est devenu trader dans une société qui a pignon sur rue à Wall Street. Un ex-GI dans une salle des marchés. Il y a des similarités entre les deux métiers ?
Je pense qu'il y a un aspect stress, j'imagine. Alors, de nouveau, je n'ai pas été commando de marine. Je n'ai pas passé de temps en Afghanistan sous les balles ennemies. Mais j'imagine qu'il y a un côté stress. En fait, tout est la gestion du stress. Ce métier, le trading, c'est de comment est-ce qu'on aborde la gestion du stress et comment est-ce qu'on la vit et comment est-ce qu'on peut la supporter. Parce qu'on dit souvent qu'un trader, il tient 10, 15, 20 ans, mais qu'au bout d'un moment, ça devient très compliqué. Donc je pense qu'il y a une certaine similarité, mais surtout, ça a été aussi inspiré du fait qu'aux États-Unis, il y a plein de gens qui font des études, qui n'ont pas les moyens de faire des études, et pour faire leurs études, ils doivent payer en service à l'armée. Et donc, c'est aussi, on trouve beaucoup de gens à Wall Street qui sont des traders, mais qui ont passé par l'armée. Et j'ai eu l'occasion de connaître une personne qui travaillait chez Goldman Sachs à New York à l'époque, pendant la guerre du Golfe, et quand ils ont mobilisé les Américains, ben lui, il était obligé de partir. Donc un jour, il était à Wall Street, il traitait comme moi je le faisais, et trois jours après, il nous téléphonait depuis Wagram, là-bas, au milieu de l'Irak. Donc c'était aussi pour ramener ça dans la culture américaine.
Comment est-ce qu'il avait vécu d'ailleurs, lui, ce passage de la frénésie de Wall Street au sable du désert ?
Alors moi, je le connaissais pas hyper bien. D'ailleurs, j'ai plus de nouvelles après. Je sais même pas s'il est revenu et qu'est-ce qu'il est advenu de lui-même. Mais ce qu'il racontait au tout début, nous, on recevait ses messages. Bah, le gars, il est parti un jour du bureau. Le lendemain matin, il était au point où ils ont dû embarquer pour prendre l'avion pour aller en Irak. Ils ont passé la frontière entre le Koweït et l'Irak. Et après, il disait qu'ils étaient dans les camions et puis ils allaient en direction de Bagdad et qu'ils devaient sauter des camions toutes les demi-heures parce qu'ils se faisaient tirer dessus par eux-mêmes. Le feu ami. Donc, ouais, c'était, voilà. Donc moi, j'ai pas voulu franchement aller trop dans cette histoire-là, mais c'est des choses qui existent et c'était quelque chose qui m'a permis aussi de m'inspirer dans le bouquin.
Brother in Arms, on parle souvent de la solidarité dans les films de guerre. On gagne ensemble, on meurt ensemble. C'est pas forcément l'image que l'on se fait d'une salle de marché plus individualiste, peut-être.
Alors, ce que j'ai voulu ramener dans le bouquin, c'est effectivement dans la salle de marché, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein. Il y a pas beaucoup d'amitié profonde qui se lie là-bas dedans. C'est beaucoup de réseaux. Donc, on utilise le réseau qu'on a pour obtenir de l'information. Mais moi, ce que je voulais aussi ramener, c'est que lui, de son passé militaire, il pouvait aussi garder ses liens qui, justement, il y avait une certaine solidarité parmi les soldats, mais pas les traders.
On l'a dit, hein, c'est un livre qui est loin d'être statique, c'est un livre également bourré d'action. Vous décrivez aussi un univers très masculin, un peu testostéroné. C'est aussi la réalité de ce métier ?
Malheureusement, oui. Il y a de plus en plus de femmes, et tant mieux, parce qu'en général, c'est les meilleures. Et donc, je ne dis pas ça pour m'attirer l'électorat féminin, mais il est vrai que dans ma carrière de trader, j'ai rencontré beaucoup d'hommes, mais peu de femmes, et les quelques-unes que j'ai rencontrées étaient ultra compétentes parce qu'elles ont besoin d'être plus fortes et meilleures que les autres. Mais ça reste très masculin. Et c'est vrai que il y a eu une époque, je parle de ça à la fin des années 90, quand vous aviez une femme qui traversait une salle de trading un peu trop court-vêtue, c'était compliqué pour elle. Donc il y a un machisme extrêmement exacerbé qui a un peu évolué ces 20 dernières années, soit. Mais voilà, moi je me suis inspiré de ce que j'ai connu. Et ça reste un milieu, quoi qu'on veuille bien en dire, très macho quand même.
Il y a d'ailleurs une femme hein, dans ce polar et qui est loin d'être une potiche. Hein.
Oui, absolument, c'est Vanessa Hartmann qui apparaît comme pilote d'hélicoptère. Alors d'abord, ça s'inspire du fait que Vanessa, c'est ma femme à la base. Hein. Donc j'ai repris les prénoms un peu basiques au début, le mien et celui de mon épouse. Et en fait, j'ai créé ce personnage comme pilote d'hélicoptère parce que c'est aussi une de mes vies antérieures où j'ai piloté des hélicos pendant 2-3 ans avec intention de devenir professionnel et avant de basculer dans le trading. Donc je voulais ramener de ça, bah, ça m'a permis de créer un personnage féminin un peu Bah là aussi, un peu on va dire, c'est pareil. Il y a de plus en plus de femmes pilotes aussi qui arrivent, de plus en plus, même dans l'armée, d'ailleurs, dans l'armée américaine. Et je voulais mettre en avant ce personnage qui permettait de dynamiser aussi le bouquin et d'amener d'autres aventures.
Alors, vous êtes suisse, ce polar ne pouvait se dérouler qu'à Wall Street ?
Oui, parce que bah d'abord, alors la Suisse est une patrie de gestion de fortune. Donc, c'est quelque chose qui a une notion beaucoup plus pépère. Et le côté trading insider, c'est pas en Suisse, il y en a. Mais le marché suisse est quand même beaucoup moins intéressant, beaucoup moins large que le marché américain, donc ça laisse aussi beaucoup plus de possibilités. Après, je vous le cache pas que moi j'ai vécu un peu plus d'une année aux États-Unis, New York, j'ai vécu là-bas, j'adore l'endroit, et pour moi c'était plus facile de me projeter dans un environnement qui laissait tellement de possibilités entre New York, le nord de l'État de New York, etc., que Genève, ça fait tout petit et on a fait le tour quand même. Et surtout, ben dans la suite de Wall Street en feu qui est en train de prendre forme sous mon clavier, ça se passera par contre à beaucoup plus d'endroits, mais cette fois dans le monde. Donc je voulais vraiment avoir cette possibilité de voyager.
Vous avez travaillé de nombreuses années dans la finance, en particulier chez UBS, et depuis 4 ans comme CEO, un directeur général chez Merion Swiss Partners. En 2007, au moment où démarre la crise financière, vous étiez d'ailleurs spécialiste des actions américaines chez UBS. Vous l'aviez senti venir, cette crise ?
Alors, ça dépend à quelle date vous me demandez ça. Jamais je dirais que je l'avais vu venir avant tout le monde, parce que personne ne l'avait vu venir à cette violence-là. C'était une crise qui était très larvée, puisqu'en fait, elle a commencé en 2007. On a commencé à voir qu'il y avait des problèmes. Les marchés ont commencé à s'affaiblir sans qu'on comprenne vraiment pourquoi ça s'affaiblissait. Et en 2008, on a commencé à comprendre l'impact de tous ces produits structurés pourris qui étaient adossés à des dettes qui n'existaient pas. Enfin, on connaît l'histoire qui nous ont mis dans une catastrophe assez majeure. On l'avait pas vu venir avec cette ampleur. Franchement, je me souviens de 2008, quand Lehman Brothers a mis la clé sous la porte. Là, on s'est dit, oula, là, on est en train de taper dans du lourd. Et la possibilité que ça dégénère sur quelque chose d'énorme, on en a pris conscience en 2008. Mais je pense qu'avant, je me souviens avoir fait des présentations devant des gérants de fortune qui disaient, ça baisse, mais c'est pas grave, ça va remonter. On rentrait dans ce qu'on appelle un bear market, un marché baissier, et on n'arrivait pas vraiment à quantifier et expliquer le pourquoi du comment. Et on a compris vraiment quand tout d'un coup, tout s'est accéléré à une vitesse folle.
Quel souvenir vous gardez justement de cette période à titre professionnel ?
Bah en fait, le truc, moi, je fais de la finance depuis 1987. Je suis rentré dans la banque en 87, j'avais 16 ans. Nous, en Suisse, on fait ce qu'on appelle un apprentissage. Vous travaillez dans une banque, vous allez à l'école, vous travaillez dans une banque, puis à la fin, vous avez un papier. À 20 ans, j'étais employé de banque. À 21 ans, pour un coup de bol monstrueux, je me suis retrouvé dans une salle de trading. Et j'ai vécu le crash de 87 comme jeune apprenti. J'ai vécu le Koweït en 91, la crise asiatique et russe 96, 97, 98, après la bulle d'Internet, le 11 septembre, les subprimes, la crise grecque en 2011, ensuite maintenant le Covid, et puis voilà. Et je pense que c'est pas fini. Et je l'ai vécu comme toutes les autres. On a toujours ce côté oh, c'est incroyable, on l'avait pas vu venir. Mais finalement, après, c'est un réservoir d'anecdotes et d'histoires à raconter qui est absolument phénoménal. Sur le moment, on l'a vécu mal, comme tout le monde. Après, de nouveau, notre métier en tant que trader, c'est aussi de réagir vite puis d'éviter les plus grosses claques. Alors, ce qui est assez bien, c'est que quand ça part mal, en général, on perd de l'argent, mais on est vite dehors. Et après, on est plus dans la gestion de la crise, alors qu'il faut gérer aussi les crises des clients qui, eux, n'ont pas forcément réagi aussi vite que ça, quoi.
Quand vous parlez d'anecdotes, vous en avez quelques-unes en tête ?
Voilà, il faut faire un podcast d'une semaine, là, parce que ça prend beaucoup de temps, mais en 2008, en fait, il s'avère que les gens, pendant une période, avant que ça commence à lâcher, tous commençaient à se dire « Moi, je veux faire beaucoup d'argent ». Mais ça commence toujours comme ça. Hein. Vous avez toujours une période où vous avez tout d'un coup tout le monde qui veut faire de la finance, tout le monde qui veut faire du trading, tout le monde qui veut gagner beaucoup d'argent. Et tous ceux qui vous parlaient de dire « Je veux investir à long terme parce que pour ma retraite, ça sera bien », tout d'un coup, ils veulent être riches demain, très très vite, facilement, mais sans prendre de risques. Donc ils rentrent tous dans une dynamique assez spécifique, ce qui sont « On va trouver des produits ». Et à l'époque, on vendait beaucoup de produits structurés, qui étaient des produits, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui étaient assez simples, mais qui donnaient des coupons, des rendements extrêmement élevés. Mais comme tout rendement extrêmement élevé, plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé. Sauf que dans les périodes pré-crash, en général, les gens disent « le risque ». On s'en fout, moi je vois le rendement. Et il fallait expliquer aux gens qu'une boîte qui fait des coffrets des rendements de 22%, c'est qu'il y avait un risque monumentale de faillite, et ils nous écoutaient pas. Jusqu'au jour où, effectivement, on a compris ce qui se passait derrière, puis là, il faut leur expliquer qu'ils ont pas écouté. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais des anecdotes comme ça, il y en a plein, parce que il y a une espèce de réflexion qui se répercute, et on peut faire un parallèle aujourd'hui avec tout le monde s'est emballé à l'époque, juste avant la crise des subprimes, tout le monde s'est emballé juste avant la crise Internet en l'an 2000, et là, tout le monde est en train de s'emballer sur l'intelligence artificielle. Et là, on est en train de faire des belles comparaisons dont on pourra reparler dans 2 ans ou dans 3 ans contre la crise de l'intelligence artificielle, aura peut-être vu son paroxysme.
Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA.
L'IA ? Tu veux dire l'intelligence artificielle ?
Dans Wall Street en feu, vous pointez du doigt les dérives d'un requin de la finance. C'est aussi un rappel de l'importance de la régulation, justement, sur les marchés financiers.
Bah là, on peut en parler de la régulation, parce que c'est quelque chose qui a drastiquement changé depuis 20 ans. Je pense qu'il y a 20 ans en arrière, c'était le Far West. Chacun faisait ce qu'il voulait, c'était fait de l'argent et puis après on verra la suite. On a vu les abus qui ont été démontrés et répétés encore et encore dans les banques, encore récemment. Je veux dire, nous en Suisse, on est encore traumatisés à cause de la fusion Crédit Suisse UBS où on a forcé le Crédit Suisse à se vendre à bas prix à l'UBS parce qu'ils étaient partis dans quelque chose de monstrueux en termes d'erreur, pour rester poli. Et oui, donc il y a besoin d'un renforcement des régulations, mais le problème c'est que le système bancaire est devenu tellement important en lui-même que finalement on peut pas le laisser tomber. D'ailleurs, on l'a vu à chaque fois qu'il y a une banque qui fait une énorme connerie, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, là j'arrive pas à trouver des synonymes, quand ces banques-là rentrent dans ce système-là, eh ben ils font une erreur et les États viennent les sauver, parce qu'on peut pas se permettre d'avoir une grosse catastrophe. Aujourd'hui, on parle de banque systémique, prenez le cas de l'UBS aujourd'hui qui est une méga banque systémique en Suisse, le jour où ils vont faire une erreur qui va les planter, l'État va les sauver, ils ont plus le choix. Donc régulation, c'est bien, le seul problème c'est qu'il faut aussi changer la mentalité, parce que ces 20 dernières années, on a eu des erreurs et des trucs qui ont été monumentaux de la part des patrons de banques, et jamais il y en a eu un qui a été sanctionné. Alors on veut réglementer, mais jamais on sanctionne le patron. C'est comme vous prenez un commandant de bord qui se crache avec son avion parce qu'il était ivre-mort aux commandes, on dit « ouais, mais c'est pas grave, on va s'occuper des blessés et de ce qu'on peut faire », mais vous le sanctionnez pas. Donc ce qui va se passer derrière, ça recommence. Et ça recommencera encore tant qu'on n'arrive pas à sanctionner les gens qui sont responsables de piloter ces monstres choses.
Thomas, vous avez fondé en 2016 le site investir.ch, une société de conseil en investissement. Vous êtes aussi chroniqueur boursier, ou plus exactement vulgarisateur financier. La nuance est importante.
Vulgarisateur financier est important parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où beaucoup de gens veulent faire de la finance et ils ont peur. Parce que le banquier, son travail, c'est de vendre ses compétences, mais aussi d'expliquer aux clients que sans lui, il ne peut pas s'en sortir. Et moi, mon boulot de vulgarisateur financier, c'est d'expliquer aux gens comment fonctionne la finance, pour leur expliquer que le banquier, il n'en sait pas plus que vous, il faut juste appliquer une méthodologie et fonctionner normalement. Donc je crois que c'est important de vulgariser, et moi, j'ai une certaine visibilité en Suisse et en France de plus en petit à petit, parce que j'ai aussi une chaîne vidéo YouTube, je travaille avec une banque suisse, et là, je suis en train de créer une chaîne vidéo qui s'appelle Decode TV, où on décode la finance. Parce qu'on a de plus en plus de demandes de gens qui viennent me dire « Mais Thomas, explique-nous comment ça marche, donne-moi des cours, forme-moi. » Et je ne peux pas prendre des élèves, je ne peux pas créer des classes pour expliquer tout ça. Mais les gens, ils ont besoin de comprendre simplement, sans avoir besoin d'ouvrir un bouquin de 600 pages.
Il y a quelques mois, 2 mois, le 29 septembre pour être précis, on était à 95$ le baril et tout le monde faisait la queue chez CNBC pour dire « Ah, j'ai un truc à dire, moi je pense que le baril il va à 120, non il va à 130, non non, il va être en tout cas au-dessus des 100$, non non, il sera à 150, ah, on sait pas, peut-être qu'il ira à 200. » Bref, ils sont tous venus nous donner leur target perso bien élevé, bien plus élevé, parce que c'est une évidence, on était à ça d'aller sur les 100, donc hein. Et puis bah depuis, ça fait que de baisser.
Et le décryptage du Morning Bull que vous animez tous les matins sur la chaîne YouTube Swissquote. Justement, que pensez-vous de l'émergence de toutes ces chaînes sur Internet avec des influenceurs qui disent « Faites comme moi, jeune entrepreneur, vous allez vous faire beaucoup d'argent ».
Ça, c'est une escroquerie, c'est pas pareil. L'influenceur qui vous dit « Faites comme moi, vous allez gagner de l'argent en très peu de temps », c'est un escroc. Ça existe. On l'a vu avec certains influenceurs à Dubaï qui sont d'ailleurs tombés avec la nouvelle loi française. Mais quelqu'un qui vous dit, et ça c'est une vérité, quelqu'un qui vous dit « fais comme moi, tu vas gagner de l'argent », c'est un menteur et un escroc. Nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens comment fonctionne la finance pour qu'ils puissent devenir autonomes. Mais moi, si je savais ce qu'il fallait faire, je vais être égoïste, mais je le dirai pas aux autres. Et puis 2, je serais pas en train de vous parler ici parce qu'on aurait dû se trouver quelque part aux Bahamas parce que je serais à la retraite déjà. Donc il y a un côté méthodologie de travail qu'on doit apprendre. Il y a une question de transparence. Il y a une question de réflexion et de travail qui peut s'apprendre. Maintenant, la personne qui dit « Viens, je vais te montrer », c'est comme le monsieur qui donne des bonbons à un enfant puis dit « Viens avec moi ». C'est ce qu'on dit aux enfants, faut pas aller avec ces gens-là. Mais c'est pareil, ça n'existe pas. Et puis alors, sans faire de mauvaises références, mais quand vous voyez certains de ces influenceurs, je dis pas qu'il y a que des gens bien dans la finance, mais franchement, c'est pas tout à fait le même calibre. Il faut arrêter, je veux dire, c'est pas en ayant fait les Marseillais à Dubaï que tout d'un coup, vous êtes trader de génie. Tiens, j'ai plus la place, c'est celle-là, je suis content. Hein.
Elle est bien.
Vous avez vécu plusieurs crises, vous le disiez, depuis votre début de carrière dans la finance. On sait que la dernière grande crise date d'il y a 15 ans. On va pas forcément parler du Crédit Suisse. Il y a eu l'exemple de la Silicon Valley Bank en Californie, mais bon, pour l'instant, ça a été circonscrit notamment par l'action assez rapide des autorités. Le rebond des marchés est d'ailleurs impressionnant depuis 2009. Et aujourd'hui, dans la finance, finalement, beaucoup n'ont jamais été confrontés au krach boursier. C'est un risque.
Ben oui, est-ce qu'il y aura un crash boursier? La question, c'est pas de savoir s'il y en aura un. La question, c'est combien de jours il nous reste pour qu'il y en ait un crash boursier. Ça peut être un jour, ça peut être 10 ans, mais on va en avoir un de nouveau. C'est inévitable. Parce qu'on va de bulle spéculative en bulle spéculative, on va de ce qu'on appelle en anglais le FOMO, la peur de rater le train, le fear of missing out, de rater l'occasion de rentrer dans le marché. Donc les gens vont rentrer en masse pour jouer une tendance. On l'a vu, il n'y a pas plus tard que 2 ans sur la crise des cryptos. Les gens achetaient tout, n'importe quoi, en se disant j'achète du Bitcoin, il va à 1 million. Il est monté de 1000 à 65 000, parce que 65 000, il a fait 15. C'est des crises qu'on a déjà vécues et on va le revivre. On va le revivre parce que pour que ça fonctionne, ce marché doit s'auto-réguler et il doit monter, avoir des gros nettoyages pour pouvoir repartir. Maintenant, la question, c'est quand ?
Et c'est pour ça que c'est important finalement de donner des clés de lecture aux gens ?
Alors je pense que c'est important de donner des clés de lecture, qu'ils comprennent que ça peut arriver et qu'ils essayent aussi d'anticiper eux-mêmes les prémices de ce qui peut être un crash. Pour moi, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui sur la thématique de l'intelligence artificielle, je me dis que c'est les prémices, qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Ça peut durer encore 3 ans, hein. Mais ça, c'est le début de quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une société, pour ne pas la citer, qui s'appelle Nvidia. Nvidia qui vient vous annoncer ses résultats trimestriels en disant « Les prochains, ils vont être tellement énormes qu'on ne peut même pas les quantifier. » Je veux dire, c'est de la finance ésotérique, là. D'habitude, nous, on veut des chiffres, des données, des trucs précis. Là, on dit, on va gagner tellement de fric, mais je peux même pas vous dire combien. Et le marché fait exploser le titre là-dessus. Le titre prend 300% depuis le mois d'octobre parce qu'ils vont faire de l'intelligence artificielle, mais on sait même pas ce qu'ils vont gagner. Je veux dire, quand on fait des calculs financiers, on a des spreadsheets Excel où on rentre des données dedans. Si vous rentrez résultats faramineux, ça vous met valeur inconnue. Hein. Il ne peut pas vous calculer dans un spreadsheet Excel. Ce qui veut dire que de toute façon, vous vous retrouvez face à une situation où on a un danger qui est en train de se développer. La question de toutes les bulles spéculatives, c'est où est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle explose. Mais comme on sait tous, une bulle, elle peut gonfler, puis nous surprendre, gonfler encore. Mais le jour où elle claque, c'est très très violent. Et donc on est en train de rentrer là-dedans, et pour moi c'est important justement que les gens comprennent qu'il y a des phrases typiques qu'on utilise dans la finance, les arbres ne montent pas au ciel, les marchés ne peuvent pas monter au ciel. Pour pouvoir monter, il faut qu'ils baissent, on ne peut pas monter verticalement. Donc oui, il y en aura, mais il faut expliquer aux gens que ça peut se produire.
Le marché explose, c'est de la folie.
Nous sommes sur des valeurs qui vont augmenter très vite.
Je suis la bourse d'études de vos enfants.
Oui, ma première vente, ça y est.
Tu fais partie de notre clan maintenant.
Il y aura une suite à Wall Street en feu, vous l'avez dit ?
Oui, bien sûr. Plusieurs. Non, en fait, oui, il y a une suite là que je suis en train d'écrire maintenant, qui j'espère avoir fini le manuscrit fin de l'automne. Après, ça sera une question de correction, mais et puis de mon éditeur qui décidera quand c'est qu'il faudra mettre sur le marché. Mais oui, il y aura une suite et il y en aura d'autres. De toute façon, je pense que peu importe le succès, je suis trop accro en fait à l'écriture, donc je continuerai à écrire des bouquins, quitte à en vendre 10 par bouquin, mais je continuerai parce que j'aime ça. Et celui-ci, pour la petite histoire, je l'ai écrit en disant je vais en vendre 100. C'était mon objectif.
Et aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je ne sais pas où on en est, mais j'en ai vendu avant en auto-édition, j'en ai vendu plus de 3000 tout seul, sans aucune aide stratégique. Alors là, la première version, il y avait beaucoup de coquilles, c'était les erreurs de jeunesse. Wall Street en feu était complètement retravaillé. J'ai travaillé avec un coach qui m'était fourni par Talent Édition, un coach que j'ai dû apprendre à vivre avec et à comprendre comment il fallait fonctionner. C'était pas facile tous les jours. Mais
c'est votre femme qui a dû être contente.
De quoi ? C'était pas mon coach, ma femme.
Non, mais il y avait le coach derrière tout le temps.
Ouais, beaucoup, et c'était dur pour elle parce que je le prenais mal. C'est très difficile d'entendre des gens qui vous disent « c'est pas bien ce que t'as fait là ». C'est beaucoup plus facile d'aller dans une interview comme ça, vous pouvez dire « j'ai beaucoup aimé votre bouquin, là c'est beaucoup plus facile ». Si vous m'avez dit « ouais, j'ai détesté ce que vous avez écrit, expliquez-moi comment vous avez fait pour écrire un truc pareil », c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand vous avez un coach, il vous dit que tout ce que vous avez fait, c'est mal, et donc il faut juste leur penser différemment. Enfin, j'exagère. Mais il y a toute cette réflexion derrière où effectivement, c'est un boulot. Ça s'apprend. j'ai beaucoup appris, mais ce que j'ai appris, c'est que moi, j'ai aimé faire ça. Et j'en ferai d'autres. Alors après, si ça marche très bien, puis je peux faire que ça, mais tant mieux. Même si ça continue, si ça ne marche pas aussi bien, que je ne peux pas arrêter de travailler à côté, tant mieux, parce que j'adore ce que je fais à côté, c'est pas un problème, mais je continuerai à écrire, parce que c'est juste génial. J'ai vécu, quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai vécu une période de ma vie où j'étais sous cocaïne. Je ne me drogue pas, je ne sais pas ce que c'est la cocaïne, mais je veux dire, j'étais surexcité le fait d'écrire. Et ça m'excite, et j'adore faire ça. Donc c'est vraiment une passion, dans tout ce que je fais d'ailleurs, c'est passion d'abord, et c'est facile après. Donc il y en aura d'autres, ouais.
Merci Thomas Veillet, auteur de Wall Street en feu chez Talent Éditions. Je vous invite aussi à découvrir ma critique sur ce livre publié sur le site Les Échos Weekend. Demain, deuxième épisode de notre série de fin d'année, à la rencontre de Gaston. Et je ne parle pas du gaffeur en chef. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.